Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Hervé Matou, iconique journaliste sportif et présentateur du Canal Football Club depuis 15 ans. Le 5 novembre dernier, Hervé a pris le départ de son tout premier marathon, et pas n'importe lequel, le marathon de New York. Appliqué dans sa préparation, mais contraint par un agenda complexe, Hervé s'est présenté sur la ligne de départ de son premier marathon avec une grande détermination, lui qui n'avait alors jamais couru plus de 10 km en compétition jusqu'ici. Son objectif est simple, aller au terme de ce marathon de New York, qu'importe le chrono. Il va faire preuve d'une volonté à toute épreuve pour se donner la chance d'aller au bout de son objectif. Mais je ne vous en dis pas plus. Hervé va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Ligne de Champion. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. On enregistre cet épisode le mercredi 6 décembre, donc avant toute chose, je te souhaite un joyeux mois-iversaire.
Oui, exactement. Et deux mois-iversaire du marathon. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ça fait 2 mois pile, une journée près en tout cas,
okay.
Que j'ai à la fois couru le marathon et donc fait mon anniversaire le même jour.
T'es sûr que c'est pas un mois?
Attends, un mois.
Mais quasiment, t'as célébré ton anniversaire en ayant la médaille de finisher.
Mais oui, je suis quoi, putain.
Double mois-iversaire.
Double.
Figure-toi que le 6 décembre, je suis sûr que tu le sais, c'est la date à laquelle la sonde américaine New Horizons est sortie de son hibernation de 1873 jours.
J'ai pensé ce matin en me levant, je me suis dit, tu te rends compte quand même?
Ouais, on y pense assez régulièrement. Et donc sur 9 ans de voyage, cette sonde, elle a passé 5 ans en sommeil, elle a hiberné. Est-ce que toi, hiberner, c'est l'envie que tu as eue à la conclusion de ton marathon de New York? C'est la première chose que tu as envie de faire?
Hiberner, je ne sais pas, mais j'ai dit à mon entourage, à mes coachs qui étaient là, ah mais plus jamais ça. Et ils m'ont dit, t'inquiète pas, c'est normal. Tout le monde dit ça. Et généralement, ça va changer, ça va revenir. J'attends que ça revienne. pour l'instant, ça revient doucement, vraiment très doucement. Mais c'est vrai que c'est la première idée que je me suis dit. Je me suis dit, bon, je suis content, je l'ai fait, mais je ne pense pas être capable de me réinfliger ça.
Oui, le plus jamais, ouais, il est un peu plus long que d'habitude. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre en veille moi, des sondes spatiales comme ça. Là, c'est pas mal, hein, c'est confortable.
Ouais.
C'est pour préserver un peu les circuits, etc. Comme ça, on est sûr qu'elles arrivent à bon port. Hervé, on va démarrer cette interview avec une classique question d'ouverture. Est-ce que tu pourrais te présenter, mais tu ne peux pas me parler de sport? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi?
Ben,
il y a plein de choses.
Dire que je suis journaliste, parce que le fait que je travaille dans le sport, j'ai prononcé le mot, est presque un détail. J'ai toujours considéré que le sport était une matière journalistique comme une autre, donc je suis journaliste depuis de trop nombreuses années, trop nombreuses parce que je suis vieux du coup, et que j'ai un an de plus depuis un mois, comme tu l'as signalé. Voilà, je suis un père de famille, je suis quelqu'un qui suis bien sûr passionné par le sport, mais pas seulement, qui s'intéresse à plein de choses à côté. J'ai jamais été un total obsédé exclusif, on va dire, du sport. Je parle beaucoup de sport, hein, pour quelqu'un qui ne sait pas en parler.
Si là, tu as une soirée devant toi ou un week-end, qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire si tu es justement à distance du sport? Ça va être quoi ton plus grand plaisir ?
À distance du sport, bah, ça va être franchement de voir des gens que j'aime, passer du temps, aller au cinéma. Voilà, ça peut être, ça peut prendre plein de formes, profiter des enfants aussi. Enfin, voilà, c'est, je suis assez, quelqu'un d'assez tranquille finalement.
Ouais, pas de clubbing jusqu'à 5h du mat.
Non, pas du tout. Non. Alors, encore moins aujourd'hui, mais même jeune, c'était pas trop le truc qui me faisait triper.
Merci Hervé. Je te propose de faire un premier saut dans le temps et de revenir à ton enfance et ton adolescence. Est-ce que tu peux nous dire quelle place tenait le sport dans ta vie à l'époque ? Et puis nous parler notamment de Paul, qui n'était pas un copain de classe, mais qui était plutôt un blason et puis le cadre de ton activité de cœur d'alors.
Ouais, le Paul. Ouais, le Paul, c'était le club de foot, hein, c'est ça ? Je vois que tu es bien informé.
Ouais.
Dans lequel j'ai commencé le foot à, comme plein de petits garçons à 5-6 ans ou 6 ans, enfin je ne sais pas exactement. J'étais dans la banlieue parisienne, mes parents étaient fonctionnaires, donc j'habitais Longjumeau, et donc j'ai signé au Pôle, au Postillon Olympique Longjumellois, emporté par la vague verte de Stéphanoise, qui a amené plein d'enfants vers le foot à l'époque. J'étais donc dans une famille, j'avais un grand frère qui s'était essayé au foot, mais manifestement c'était pas son truc, et lui c'était plus la musique. Et donc la passion du foot m'est tombée dessus assez jeune, hein, et j'avoue qu'elle est devenue un peu obsessionnelle. J'étais vraiment à fond dans le foot, tout en continuant. Donc le sport, j'étais pas dans une famille de sportifs énormes, mais pas du tout contre non plus. C'est-à-dire que mon père a tout de suite accompagné ce goût pour le foot, est devenu assez vite dirigeant dans le club de foot dans lequel j'étais. Mais dans ma famille, on faisait en sorte d'être ouvert à plein de choses, et peut-être pour ça aussi que je suis aujourd'hui assez ouvert à la diversité. C'est qu'on pouvait aller de temps en temps au Parc des Princes voir un match du PSG. C'était pas le PSG de l'époque, hein. Le stade était à peu près vide et ils jouaient les maintiens en gros. Et aussi aller au théâtre, voir des trucs un peu pointus, aller à des expositions. Enfin voilà, il y avait une sorte de diversité de loisirs voulue par mes parents pour nous ouvrir un peu l'esprit.
Tes ambitions sportives là, et footballistiques de l'époque, elles étaient de quel ordre ? Et puis est-ce que l'esprit de compétition, c'est quelque chose qui t'habitait et qui t'amenait à te surpasser ?
Non, pas d'esprit de compétition très très développé. Par atavisme familial, je pense, mon père était vraiment dans un discours très... on va dire social, non, faut pas écraser les autres, la compétition c'est pas bien, etc. Donc je pense que j'ai découvert au fil du temps et de mon métier, j'étais beaucoup au contact de la haute compétition, donc je comprends les ressorts de la haute compétition, j'ai beaucoup échangé avec des grands athlètes, des grands sportifs, donc tout ça a fait que je me suis détaché de ces valeurs qu'on m'avait inculquées, mais malgré tout, c'est sûr que ça fait pas de moi quelqu'un qui aime la souffrance, qui veut absolument faire une perf, battre son record, etc. Non, on m'a pas donné ça petit. Donc ça, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment nourri, on va dire. Donc le sport, mais malgré tout, comme tout gamin qui commence le foot, moi j'avais envie d'être Ivan Kurkovic, hein, j'étais gardien, le gardien des Verts. Les années 70, c'était mon idole. Et bien sûr que quand tu commences le foot, que tu es petit, tu te rêves footballeur. Mais c'est quelque chose qui m'a aussi quitté assez vite. Je ne fais pas partie des journalistes de sport qui sont des footballeurs frustrés. Il y en a plein, hein, qui se disent, ah, voilà, qui sont encore fascinés par les joueurs, etc. J'ai de l'admiration pour ce qu'ils font. Mais mon envie de faire autre chose, elle est venue assez vite. Et j'ai assez vite compris que je ne serais pas professionnel. Donc voilà. Je ne suis pas un footballeur contrarié, on va dire.
Quel accueil tu as réservé à la course à pied ? On sait que dans le cadre scolaire, quand on est petit, ça peut être forcément pas très réjouissant, là, les crosses du collège ou les tours de piste. Est-ce que tu vivais ça comme une punition, ou est-ce que c'était, tu trouvais ton compte et c'était le moyen de te dépenser ?
Déjà, le sport à l'école, dans les années 70-80, c'est rien. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, on critique, on dit il n'y a pas assez de sport à l'école, etc. Je vois à mes enfants le sport qu'ils ont fait ou qu'ils continuent à faire pour ceux qui sont encore scolarisés. C'est hallucinant le nombre d'heures qu'ils font par rapport à nous. C'est-à-dire que nous, en primaire, il n'y avait pas d'intervenant extérieur. Tu faisais du sport si l'instit décidait que tu faisais du sport. C'est-à-dire, franchement, dans mes souvenirs, 2 à 3 fois par an. Donc, rien. Donc, Autant dire que la course et au collège, c'était alors il y avait les heures réglementaires. Franchement, j'ai plutôt de souvenirs de frustration, de séances qui commencent jamais, où on fait rien, on fait un match de handball qui dure 5 minutes et on remballe tout. Enfin voilà, ben, vraiment, j'ai très peu de souvenirs de sport vraiment efficace à l'école. Donc la course à pied, pour revenir à ta question, c'était plus dans le cadre du foot, la préparation. Et à l'époque encore, on était un peu sur, bon, on commence par les tours de terrain. Hein, c'était, on fait 10 tours de terrain et on commence la séance pour jouer au foot, quoi. Il n'y avait pas encore de physique avec ballon où finalement tu cours sans t'en rendre compte. Donc j'avoue que je suis resté sur l'idée que courir c'était chiant, c'était un truc qu'on faisait avant de faire du sport pour s'amuser, quoi.
Pas assez ludique.
Pas assez ludique. Et donc quand je me suis mis un peu à la course à pied, c'était bien après, adulte. Où je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que c'est un moyen assez simple de faire du sport, pratique, qui ne demande pas de temps, pas de devoir chercher quelqu'un, etc. C'est comme ça que j'ai eu ma première vague de running.
C'était plutôt un choix de raison que de cœur, alors, c'est ça?
Ouais,
Enfin, en tout cas, pour des raisons
clairement,
logistiques
clairement,
à
oui, non,
pratiquer.
clairement, oui. Je ne me suis jamais dit, qu'est-ce que c'est super d'aller courir. Alors là aussi, c'est un petit peu comme le retour de flamme post-marathon, on m'a dit, tu verras, tu vas courir, et au bout d'un moment, ça va devenir indispensable à ta vie, tu vas te lever le matin, tu auras des envies. Franchement, jamais. Jamais ça ne m'est arrivé de me dire, qu'est-ce que j'ai envie de courir
Ah, ça me
aujourd'hui?
manque.
Voilà. Non, non, au contraire, quand je l'ai fait, ça a toujours été de dire, bon, ah, il faut que je le fasse. Et une fois que c'était fait, ah, c'était quand même pas mal. Enfin, c'est surtout bien que ce soit fini et que ce soit passé et que j'ai la satisfaction de l'avoir fait. Pour que tu comprennes, voilà, et pour que les gens qui nous écoutent comprennent que ils écoutent là un podcast de quelqu'un de certainement dont qu'ils ont pas l'habitude d'entendre. J'imagine que tu as plein d'invités qui sont des fans, des passionnés de run, de courir, etc. Moi non, hein. J'ai fait le marathon, mais je suis pas vraiment dans un rapport de passionnel avec le fait de courir.
Tu as participé à ta première course, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, en 2017. C'était les 10 km de l'équipe, c'est
Ah,
ça?
mieux informé que moi parce que
Ouais.
j'aurais été incapable
Je
de
peux
te
même te
donner
dire ton
cette
chrono.
information.
1 h 5 minutes et 54 secondes sur
Ah
ce
ouais.
10 km.
Ouais, c'est
Ouais.
pas terrible, mais bon, écoute.
Attends, finir une course, c'est ce qu'il faut viser, de toute façon. Comment est-ce que tu t'es fait embrigader dans cette course? Est-ce que c'est pas ton initiative, visiblement, c'est pas forcément toi qui as poussé pour ça.
Je t'avoue, je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop.
Ça te faisait marrer, en tout cas, l'idée d'aller faire une course?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'habitais à Nogent-sur-Marne et sous mes fenêtres, il y avait le départ d'une course chaque année, qui est peut-être pas dans le palmarès que tu as retrouvé, parce que je crois que j'ai fait mieux que le temps que tu m'as annoncé là sur.
Tu as fait mieux après, en tout cas, dans un autre
Ah, c'est
kilomètre,
ça,
ouais, une heure. Ouais.
ouais, voilà. Et en fait, chaque année, c'était un peu le spectacle. Il y avait vraiment la foule et le départ, la pile devant chez moi. Avec le côté un peu kermesse, la musique et tout. Et donc, moi qui courais un peu, je me suis dit, bon, un jour, il faudra que je la fasse, cette course, quoi. Et donc, c'est plutôt ça qui m'a motivé, dans mon souvenir en tout cas, de faire la course devant chez moi, qui part devant chez moi et qui arrive pas tout à fait devant chez moi, mais pas loin. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu envie de m'inscrire à une course, entre guillemets, officielle.
Tu as réitéré donc quelques mois après en octobre, donc 1 h 49 minutes, c'était encore un
1 heure et
dix
49
kilomètres.
minutes.
Pardon, non, 49 secondes. Ah ouais,
Oh mon Dieu, tu m'as fait peur.
la boulette. Donc ouais, c'était finalement plus l'ensemble, tout le décorum autour de la course et l'émulation
Oui,
qui faisait
voilà.
envie.
Ouais, voilà.
La dimension collective, elle est importante, elle est assez au cœur de ce qu'on va vivre aujourd'hui avec ton marathon de New York. C'est aussi un projet que tu prends plaisir à partager dans les courses, peut-être même dans les entraînements. Le collectif, il joue aussi beaucoup.
Bien sûr. Bon, déjà, le jour J, le jour de la course, il y a un côté, malgré tout. Kermesse, fête du village. En fait, du village, quand c'est New York, c'est un grand village. Mais c'est vrai que oui, il y a ce côté-là. Et puis, là, pour le coup, dans la préparation, j'avoue qu'avec la Team Orange, j'ai découvert le côté collectif de la préparation, le côté émulation. On était tous de niveaux différents. Il y a peu de sports, en fait, qui te permettent de préparer un même événement avec des gens de niveaux tout différents. Moi, j'étais le moins performant du groupe, mais malgré tout, j'y ai trouvé ma place. Et le fait que tout le monde soit solidaire, que tout le monde se prépare. Bah voilà, si tu fais un tournoi de tennis, si tu es d'un niveau national et que tu as à peine joué au tennis, tu vas pas faire le même tournoi. Enfin, tu vas éventuellement. Quand ton copain va commencer, toi, tu seras éliminé depuis longtemps. Et alors là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés, moi, je n'avais pas démarré. Question de sas. Mais il y a quand même une dimension collective, ouais, dans la préparation. Après, dans la course, non, parce que chacun court à son rythme. Et assez vite, tu te retrouves seul. Enfin, seul. T'es jamais seul sur le marathon de New York, mais en tout cas, esselé dans ton équipe.
Quelle place elle a tenue ensuite la course à pied là, depuis 2017 et ses premières expériences en compétition? Est-ce qu'elle a été présente un peu de façon très aléatoire ou tu maintenais quand même un niveau d'entraînement assez régulier, de petites sorties
Non, ça a été cyclique. Je pense que j'ai eu une période, là, donc tu m'apprends que c'était en 2017, j'aurais pas été capable de te donner la date, qui a dû durer peut-être un an ou deux, je crois. Et ensuite, j'ai dû arrêter, passer à autre chose. Et voilà. Et je suis revenu à la course via la team Orange Running qui m'a proposé de rejoindre ses rangs. Et donc, je m'y suis remis.
C'est aujourd'hui là, le sport le plus compatible avec toi, ton activité, ton agenda très chargé, perso, boulot. C'est, là, c'est ce qui
oui,
est le plus
c'est
simple
plus,
pour toi.
Oui, c'est le plus fluide, effectivement. Alors, je fais aussi un peu de tennis. J'essaie de faire de la salle, mais ça, c'est plutôt dans le cadre de la préparation justement des événements, là, du marathon.
C'est beaucoup plus compliqué de se motiver pour ça, non ? Pour moi, c'est
oui,
hyper difficile.
Oui, alors on a la chance d'être accompagné, d'avoir un coach et tout, donc c'est plus simple quand même. Mais en tout cas, oui, la course, c'est quand on a un calendrier compliqué, c'est effectivement la chose la plus simple. Tu regardes, tu dis tiens là j'ai un trou, jeudi matin entre 10 et 12 je vais pouvoir le faire quoi, oui c'est clair.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est quand même malgré tout une source d'accomplissement ou est-ce que c'est juste t'as fait ce que t'avais à faire ou est-ce que ça peut quand même être une source de satisfaction, la douche d'après elle est quand même bien,
oui.
Les hormones sont au taquet et
ouais,
puis
ouais,
t'as pris du plaisir.
Oui alors voilà quand même je ressens ça, comme je te le disais je ressens surtout le plaisir de l'après, de se sentir bien, de sentir son corps. D'être plus affûté, la douche d'après dont tu parles, tout ça, oui, voilà. Mais c'est plutôt l'avant qui... c'est le manque d'allant au départ, quoi, voilà. Mais...
On ne regrette jamais, c'est ce qu'on dit en tout cas.
Voilà, on ne regrette jamais. Et puis, ce qui est vrai, comme plein de choses dans la vie, c'est que plus tu en fais, plus tu es porté par ça. Et dans le sport, ce qui est terrible, c'est que plus tu t'arrêtes longtemps, plus c'est difficile de relancer la machine. C'est impitoyable hein, pour ça, le sport. Quand tu reprends après un mois d'arrêt, tu as l'impression d'avoir jamais fait de sport. Mais par contre, c'est vrai que quand tu es dans un cercle vertueux, que tu t'imposes des séquences et des séances régulières, c'est de moins en moins dur d'y aller. Quoi.
C'est plus en plus gratifiant, effectivement, avec le temps. Sans parler là, de tes dispositions physiques, mais ça va être en lien avec la course qu'on va raconter aujourd'hui. Comment tu t'auto-apprécies en termes de détermination de mental ? Est-ce que tu penses que tu as de la ressource ? Est-ce que en termes de qualité, est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui est prêt à... Enfin, qui se donne les moyens en tout cas d'atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, et donc ça se traduit aussi en course, avec le moment, en tout cas quand tu te lèves le matin, de ne pas lâcher ?
J'aurais eu tendance à dire que j'ai un mental de moule, vraiment pas terrible. Et en fait, je crois que c'est faux, et des gens m'ont dit « Mais non, tu ne te rends pas compte, tu as un super mental. » Alors, je navigue entre ces deux idées. Je ne sais pas trop, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas un mental à vouloir me faire mal, à aller me mettre dans le rouge de manière, en y prenant du plaisir. Je n'ai pas ça.
Mais tu ne lâches pas non plus.
En revanche, voilà, en revanche, malgré tout, je ne lâche pas. On va parler du marathon, mais à aucun moment, je me suis dit pendant le marathon, et Dieu sait qu'il a duré longtemps, ce qui me concerne, que j'allais abandonner. J'étais certain que j'allais arriver au bout. Donc je pense que malgré tout, quand je me donne des objectifs, je me donne des moyens de le faire et je les tiens. Mais dans une sorte de forme de confort. Voilà, j'essaye pas de. Je recherche pas la douleur, en fait. Voilà.
Est-ce que si on avait eu cet échange il y a 10 ans, qu'on avait été beaucoup plus jeune et fringant, est-ce que si je t'avais dit, je t'avais félicité pour ton marathon, est-ce que tu m'aurais cru ? Est-ce que tu aurais cru ça possible ?
Je suis déçu déjà que tu me trouves pas fringant. Mais,
on l'est.
Mais en fait, non. En fait, moi, le marathon, ça a toujours été pour moi quelque chose d'inatteignable et même de ne. Que je n'avais jamais envisagé d'objectiver, quoi, d'avoir comme objectif. Quelque part, je réponds aussi à la question précédente, c'est que quand j'ai évoqué le marathon, mes enfants, les plus grands, m'ont dit « Toi, faire un marathon, n'importe quoi, jamais tu y arriveras,
sympa.
Tu ne pourras pas. » Et en plus, tu n'as pas le mental pour ça, tu n'as aucun mental. Parce qu'ils voient que je suis plutôt un jouisseur, que j'ai plutôt envie quand on fait du sport. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de gagner. J'ai envie de gagner, mais c'est jamais très grave en fait, de perdre. Je suis plutôt le gars qui, assez vite, va faire de la chambrer, se marrer. Voilà, mais je ne suis pas un mauvais perdant au sens que je n'ai pas envie de...
Ouais, tu prends ça avec légèreté.
Envie, voilà. Donc, ils m'ont dit, non mais toi, jamais de la vie, tu feras un marathon. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Je lui ai dit, ah bon, vous dites ça, vous savez quoi, je vais le faire. mais bon, avant que je me lance dans ce truc, parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as dit à tes enfants, mais oui, ok, vous me défiez quelque part, je vais le faire. passer l'effet où tu as fait le mariole, faut s'y mettre. Donc, c'est là que commence le plus difficile.
Faut délivrer la cam.
Je t'aurais dit, jamais de la vie, je vais me lancer là-dedans. Quoi. Non, ça, c'est clair. Ce qui est paradoxal, parce que j'aurais été mieux armé il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Quoi.
Merci beaucoup, Hervé, pour cette rapide présentation et introduction. On va passer à notre séquence du questionnaire de Proust, qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur tes goûts et tes aspirations. Est-ce que tu es prêt pour ça, Hervé ?
Ben, je vais essayer, ouais.
Première question de ce questionnaire, le souvenir d'enfance qui est le plus précieux pour toi ?
J'ai pas de, et heureusement je dirais, j'ai pas de souvenir, un souvenir comme ça qui se dégage de manière plus précieuse que l'autre, que d'autres. Je dirais que ce que j'ai reçu de plus précieux, en tout cas, je pense que c'est l'amour de mes parents, tout simplement. Je pense que c'est la condition préalable pour pouvoir en donner à son tour, pour pouvoir faire preuve d'attention et d'amour vis-à-vis des autres, des gens qu'on aime, mais pas seulement. Et donc, je crois que voilà, le coussin précieux que j'ai reçu et qui fait que je suis ce que je suis, c'est ça. C'est d'avoir reçu finalement beaucoup d'amour et d'avoir le souvenir d'une enfance heureuse.
Ça joue peut-être là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'es pas grand chose à prouver en fait, finalement, sportivement ou quoi que ce soit, finalement,
oui.
Tu n'as rien à démontrer.
Et aussi, peut-être aussi, pas d'envie d'aller se faire mal en fait. Je pense que des gens qui ont souffert, il y a le concept de résilience hein, qui peut être un atout dans la vie aussi. Voilà, quand tu as souffert, il y a des choses qui sont dures que tu peux pas donner, mais certainement tu as une plus d'accoutumance à de la souffrance, plus d'envie d'aller prouver des choses. Et j'ai pas du tout vécu dans un milieu particulièrement fortuné ou quoi que ce soit. Hein. J'ai une famille moyenne, mais j'ai vécu dans une ouate, non pas de confort matériel, mais de
bienveillance,
de bienveillance,
de
voilà, exactement. Et c'est y a des choses que ça te donne pas en termes de force, de violence, qui peut être utile. Mais je reste persuadé que c'est malgré tout un cadeau.
Quelle est l'émotion que tu gères le moins bien ?
L'émotion que je gère le moins bien, les émotions que je gère le moins bien, c'est les émotions des autres finalement. Je me sens moi capable personnellement d'encaisser plein de choses, voire tout. Bon, à part bien sûr des choses très violentes qu'on peut imaginer, mais ce que je gère le moins bien, c'est la détresse des autres, des gens qui me sont proches, soit même des gens inconnus. Je pense que je me mets assez facilement en empathie et ça m'est très difficile de résister à ça, y compris d'ailleurs, même les émotions de joie des autres me touchent très vite. Pour répondre à ta question, c'est vraiment ça que je gère le moins bien, c'est le spectacle des émotions me touchant des autres.
Est-ce que c'est des choses que tu peux éviter ou est-ce que tu les embrasses et tu composes et toi tu
t'exposes ? Un peu les deux, c'est-à-dire que tu t'exposes, mais avec le temps tu apprends aussi parfois à te protéger parce que tu peux pas être une éponge, hein, donc tu es obligé de temps en temps de tenir à distance tout ça parce que tu te connais et que tu peux pas, pour reprendre une expression qu'on entend parfois, embrasser toute la misère du monde. Donc quand tu sais que tu es un peu quelqu'un d'empathique, à la fois tu l'acceptes, mais de temps en temps il faut que tu te protèges parce que tu peux plus, tu peux pas, il faut à un moment donné se tenir à distance pour ta propre survie, on va dire.
Troisième question de ce questionnaire, le talent que tu aimerais le plus avoir ?
Je crois que ce serait une forme d'esprit d'entreprise qui fait transformer de manière rapide une idée en projet. Je fais partie de ces gens qui ont plein d'idées et qui se dit que ça reste des idées parce que je me dis je vois tout de suite les obstacles et je connais à contrario des gens autour de moi qui ont une idée le lundi et le mardi matin ils la mettent en branle et ils n'ont pas peur de tous les obstacles, ils foncent en fait. Et moi je peux assez vite être saisi par le syndrome de l'imposteur quand je suis pas dans mon domaine, me dire ouais mais là bon est-ce que je vais être crédible, je vois assez vite ces obstacles. J'ai pas cette espèce d'esprit d'initiative d'entreprise qui te rend imperméable à ce sentiment d'imposture.
Tu parlais de résilience tout à l'heure aussi, effectivement quand t'es entrepreneur c'est prendre des coups et avancer quotidiennement quoi, en gros ça se passe jamais
comme prévu. Ouais, certainement.
Le moment qui a changé ta vie pour toujours, il y en a probablement plein.
Ouais, alors en fait, je suis pas dans le, je crois pas trop à la théorie du moment. Alors ça peut être vrai pour certaines personnes, hein. Il y a parfois une rencontre qui fait basculer une vie, un moment, mais globalement, je crois que c'est assez rare. Il y a un film, je sais pas si vous l'avez vu, Les Tourbillons de la vie,
J'ai pas vu.
qui montre en fait deux vies parallèles de deux personnes, deux héros que tu suis. Puis il y a plein de petits moments clés comme ça où, en fonction de leurs décisions, à l'instant T, leur vie va prendre une direction ou une autre. Et tu vis toute leur vie en fait possible, l'option A, l'option B. Ensuite, au carrefour d'une autre vie, l'option A, l'option B. Et tu te rends compte que les deux mêmes personnes, juste sur des toutes petites décisions de vie ou des hasards de vie, tu rentres dans une boutique, tu croises quelqu'un, tu arrives 5 minutes plus tard, tu ne le croises pas, ont des vies totalement différentes. Et je crois beaucoup à ça, au fait que la vie est faite de plein de carrefours, parfois de décisions, parfois totalement aléatoires, et qui font que ta vie prend une direction ou une autre. Je donne juste un exemple. Mes parents, donc j'ai grandi en région parisienne, mais mes parents ensuite ont été nommés à Clermont. Donc on est parti, on a déménagé, j'avais 11 ans à Clermont. Ils pouvaient également être nommés à Albi. Ils ont fait le choix de Clermont, c'était Clermont ou Albi, en gros la région de ma mère ou la région de mon père. Et si ils avaient pris Albi, eh ben, ma vie aurait été totalement différente. J'aurais pas fait ma vie avec la même femme, mes enfants n'auraient pas été mes enfants. Mais en même temps, si mes parents ne s'étaient pas rencontrés, donc en fait, je pense que le moment qui a vraiment changé ma vie, c'est le moment où mon père a rencontré ma mère. Sinon, je serais pas là à te répondre. Donc voilà, ce sera ma réponse. Mais sinon, voilà, je pense que la vie est faite de multitudes de possibilités. Je ne crois pas spécialement au destin. Je crois pas. Il y a des moments clés dans la vie, effectivement, où il ne faut pas se rater, où c'est un virage important. Si tu le rates, ça ne veut pas dire que tu es dans le décor définitivement. Ça veut dire que ça va prendre plus de temps ou que finalement, tu vas prendre une autre direction. Je crois plutôt à ça.
Tu nourris des regrets? Ça t'arrive de questionner ou d'être nostalgique ou de dire justement le et si?
Non, pas trop. Je trouve que la vie a été généreuse avec moi et c'est pour ça aussi que je pense que quand on a reçu, il faut donner et rendre. Mais des regrets, enfin des regrets ponctuels peut-être en réfléchissant, mais globalement non.
Merci beaucoup Hervé de t'être prêté à cet exercice. Je vais présenter très brièvement la course épique qui nous intéresse aujourd'hui, donc le Marathon de New York. Cette course, elle revêt une dimension incontestablement mythique pour de nombreux coureurs. Son tracé au cœur de Big Apple et la ferveur incroyable qu'il suscite avec plus de 2 millions de personnes sur le bord de la route font de lui un marathon évidemment hors du commun. C'est une course où les champions olympiques côtoient les amateurs passionnés, même si on regardait ça, ils sont déjà en train de prendre la douche alors que
Oui, c'est clair.
nous on est sur la ligne de départ, je m'inclus dans le amateur passionné. Cette course, elle transcende les frontières, elle unit les coureurs de tous horizons dans une célébration de l'endurance humaine et puis du dépassement de soi. Je pense qu'on voit une grande variété de coureurs en fauteuil roulant, enfin voilà, avec plein de difficultés. C'est
Ouais.
très, c'est la représentation de la diversité par excellence, comme peut l'être la course à pied de manière générale. C'est aussi une plateforme philanthropique, puisqu'il y a de nombreux coureurs qui choisissent de lever des fonds pour des causes caritatives, unissant ainsi l'esprit sportif à l'impact social. Donc c'est une opportunité unique de courir pour quelque chose qui est plus grand que soi, c'est important aussi. On l'a dit tout à l'heure, je crois, plus de 50 000 coureurs participent chaque année au Marathon de New York, donc le premier week-end de novembre pour l'anniversaire d'Hervé Matou. Un succès incroyable lorsqu'on sait que 127 coureurs seulement ont pris le départ, dont seulement une femme, lors de la première édition en 1970, où il y a eu 55 finishers. Je pense que vous étiez un peu plus cette année. À l'origine, le Marathon de New York était parcouru intégralement dans Central Park. Chaque dossard coûtait alors un dollar. C'est un temps lointain aussi. Le départ est donné désormais à Staten Island et débute par la traversée du Verrazano Narrows Bridge, dont tu vas nous parler. Le tracé parcourt les 5 arrondissements de New York, Staten Island, Brooklyn, le Queens, Manhattan, une rapide incursion dans le Bronx, pardon, avant un retour sur Manhattan et une arrivée, si tout se passe comme prévu, à Central Park. Et puis on n'est pas sorti du bois encore à Central Park. Là, je crois qu'il y a encore
Non,
des petits
non,
coups de cul, comme on dit
c'est clair.
dans le jargon trail, qui sont un peu robustes à ce moment-là de la course. Donc la course s'est tenue cette année le 5 novembre. Départ programmé à 8 heures pour les concurrents pro en fauteuil roulant, puis les coureurs handicapés, les élites femmes, les élites hommes, avant que 5 vagues de départ pour tous les autres coureurs ne s'élancent à partir de 9h10. Le record de l'épreuve, il a été battu cette année en 2h4,58 par l'athlète éthiopien Tamira Tola. Et le record féminin, il tient depuis 20 ans.
Il m'a lâché dans le dernier.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que tu as fait un croche-patte. Ouais.
Ouais,
C'est
non.
vraiment pas l'esprit du tout
Non.
du marathon. On n'est pas fiers de toi, Tamira. Hervé, j'ai oublié des choses ou pas? Est-ce que tu penses que voilà, y a l'ambiance, je ne vais pas trop parler, mais c'est quand même
Oui,
une ambiance de
l'ambiance,
dingue.
on va en parler, bien sûr, bien sûr.
C'est le moment qui pique un peu de notre échange. Tout se passait très bien jusqu'à maintenant. J'ai une question qui pique pour toi. Elle va être en lien avec le marathon de New York. Je fais des trucs assez tirés par les cheveux de manière générale, mais là, on est plutôt droit par rapport à la course dont on va parler. Il y a une fanfare particulière sur ce marathon de New York qui s'appelle la Bishop Laughlin High School de Brooklyn, qui joue en boucle la même chanson du 1er au 50 000e coureur. Donc ils sont en boucle, là, ils sont en mode repeat pendant, je crois, c'est à peu près 3 heures, le temps que tout le monde passe, comme ils sont plutôt au début. Donc je vais te demander, quelle est la chanson qu'interprète cet orchestre, est composé de 200 musiciens, et qui joue en boucle, et qui est une chanson plutôt entraînante, inspirée d'un film. Est-ce que tu as une idée de quel film ça pourrait être ?
Alors, pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Pourtant, je suis censé être lucide si tu me dis que c'était au début, mais je n'ai absolument pas remarqué cette fanfare. Il y a tellement de musique, tellement de fanfares. J'en ai vu, effectivement, des concerts improvisés, mais je n'ai pas repéré particulièrement celui-ci parce que je n'étais pas au courant de cette anecdote.
Je vois bien ta technique pour m'obliger à chanter a cappella le morceau, je le vois bien.
Ah ouais.
Rocky. D'accord. Rocky, c'est le thème de Rocky.
Ah ouais, bah, alors, ouais, je sais pas si je l'ai. Il y a un tel cocktail de musique qu'on entend quand on court à New York que ça m'a.
T'étais
échappé.
Trop dans l'effort. T'étais, ça m'a échappé. T'étais concentré.
Ouais, exactement.
En même temps, c'est une sacrée preuve d'endurance aussi, hein, pour de souffler dans les trombones là pendant 3 heures. Je pense qu'à la fin, il doit avoir besoin
de. Ça pendant 3 heures, et puis en plus, là, exactement
ravito.
Le même thème, ça doit être dur, hein, c'est clair.
Écoute, Hervé, ça n'est malheureusement pas la bonne réponse. J'entends ici les cris de désespoir de nos auditeurs. Je te propose qu'on parle de ta course épique qui, elle, t'est allée comme un gant et sur laquelle t'as tenu à pas jeter l'éponge. Franchement, félicitations. Cette décision, donc, elle est née donc, d'une forme de défiance familiale. Tu l'as dit tout à l'heure, ça t'a piqué au vif. C'était combien de temps avant ? Est-ce que c'était encore réaliste de pouvoir se projeter sur le marathon en termes de préparation ?
Ça l'était, oui. Je me souviens plus exactement, mais ça devait être aux alentours du mois de février-mars. Sachant que on m'avait dit que le temps minimal, c'était 3 mois possible. Donc, entre le moment où j'ai dit que j'allais le frais et le moment où je me suis mis, j'ai même laissé un peu de temps. Voilà, j'ai commencé tardivement, quoi. J'ai dû commencer peut-être en mai ou juin. Ce qui me faisait peur un peu, c'était l'été, parce que j'avais pas trop envie de passer mon été à courir, même si c'est ce que j'ai fait finalement. Mais je crois que j'ai commencé fin juin, vraiment ma préparation, entre guillemets. Encore une fois, un peu minimal, je ne cherchais pas de performance. Mon but, c'était d'arriver à finir, ce qui pour moi était déjà une performance.
C'en est une.
Et c'est vrai que quand Dorian, donc mon coach, m'a dit...
Dorian Louvet, oui.
M'a dit « Combien tu peux faire de séances de run par semaine ? Je préfère que tu me dises peu, mais que tu les fasses plutôt que beaucoup. »
Il n'a pas été déçu de la réponse.
J'ai réfléchi, je dis ben, « 2 ». Il me dit « Ah bon ? Seulement ?» Ben, j'ai dit « Ben oui, écoute. Ouais. » Et encore « 2 », je te dis « 2 ». Là, quand je te le lis, je vois vraiment pas comment je vais faire. Et donc, il m'a dit, bon, bah, ok, mais 2, c'est vraiment, tu peux pas faire moins. J'ai dit, ok, tu m'as demandé mon max. Mon max, c'est ton minimum, manifestement, mais ce sera mon max. Et j'ai réussi à tenir mes 2. Alors, ça m'est arrivé d'en faire qu'une et du coup, de compenser en faisant 3 la semaine d'après, etc. Mais voilà, je suis parti sur 2 séances, pas plus.
Ton premier marathon, ça ne pouvait être que New York ?
Non, puisqu'au départ, j'étais parti pour que ce soit le marathon pour tous, qui sera mon deuxième, normalement, à Paris. Mais j'avoue que c'est aussi pour ça que j'ai dit oui. C'est parce que je me suis dit, quand on m'a proposé de participer à ce marathon de New York, je me suis dit, tu peux pas refuser New York, c'est pas possible. Pour être honnête, parce que tu m'as posé la question, est-ce que tu avais déjà envisagé un marathon ? Oui, enfin non, mais oui. C'est-à-dire que je m'étais dit un jour quand même, ça doit être sympa de préparer le marathon de New York et de faire New York. Et quand j'ai découvert il y a quelques années l'équidène, alors je me suis dit ce serait sympa qu'il y ait un équidène à New York. Ça permettrait d'avoir le même trip que préparer le marathon de New York, mais sans les efforts nécessaires pour le marathon. Donc je me suis dit si tu m'avais dit un jour t'en feras qu'un dans ta vie, je t'aurais dit oui. Si c'est possible, je préférerais que ce soit New York. Je t'avoue que sans aucun, avec tout le respect que j'ai pour, je vais dire, une ville tout à fait au hasard, Orléans, si tu m'avais dit, prépare le marathon d'Orléans, je ne suis pas sûr que j'aurais pu trouver l'énergie nécessaire pour le faire. Quoi.
Sur quelle séance de préparation tu traînais le plus les pieds ? J'imagine que tu as préparé un petit cocktail de fractionné, des petites sorties longues.
C'était un cocktail, c'était un cocktail assez simple, fractionné en début de semaine et linéaire en fin de semaine. Le fractionné, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu de diversité, c'est-à-dire que tu découvres ton programme et au moins ça te change un peu que de courir comme ça, quoi. Donc après, quand j'ai commencé à souffrir sur le fractionné, je me suis dit que je préférais linéaire. Mais ensuite, quand les linéaires sont devenus très longs, je préférais le fractionné parce que c'était plus court. Donc voilà, ça a un peu bougé en fonction des mois.
Là, tu nous as parlé de ton rapport à la course de manière générale, le fait que ce n'était pas nécessairement un plaisir. Est-ce que là, par la force des choses, ça l'est devenu dans cette logique de préparation ? Est-ce que le fait que ce soit au service d'un accomplissement et d'une réalisation qui était la course, ça a pu apaiser cette dimension un peu contraignante ou ça n'a pas trop changé la donne ?
Pas plus que ça.
Ouais.
C'est-à-dire que exactement la même chose, c'est-à-dire plaisir de voir que je souffre moins, plaisir de voir que j'avance et plaisir d'en avoir terminé quand j'en ai terminé. Mais encore une fois, je ne suis jamais arrivé au stade où je me suis dit « Ouais, génial, aujourd'hui, je vais me lever à 7h du mat pour aller courir. » Non, ça non.
Quel niveau de confiance tu avais à l'issue de ta préparation ? Est-ce que tu avais l'impression d'avoir les armes, d'avoir fait ce que tu pouvais faire à la hauteur de tes disponibilités ? Ou est-ce qu'il y avait quand même une part d'inconnu en disant qu'il y avait un risque ?
Si, il y avait un gros part d'inconnu, une grosse part d'inconnu. C'est pour ça que je dis que mon objectif était de le terminer. Je n'en avais pas du tout la certitude. Puisque dans ma préparation, comme j'ai commencé un peu tardivement, je suis monté en gamme et à un moment donné, je suis arrivé à un stade où il fallait que je redescende parce qu'on commençait à s'approcher. Et donc, je n'ai jamais couru avant le marathon plus de 25 km. Mon max, ça a été 25. Donc, ils avaient beau me dire, c'est bon, t'as fait 25, t'inquiète pas, tu pourras faire 42. Je ne suis pas très bon en maths, mais je vois la différence entre 25 et 42. Et je leur disais, vous êtes sûr ? Moi, je n'en suis pas certain. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand je me suis lancé le jour J, et la nuit, et la veille, etc., je me jetais dans une inconnue totale. Il y a un côté un peu odyssée d'ailleurs. Hein. Tu te dis, je vais vivre des trucs, j'en ai aucune idée de ce que je vais vivre. Ça se trouve, je vais exploser complètement. Ça se trouve, c'était aussi dans mon esprit, je vais avoir une bonne surprise. Je vais dire, finalement, c'est pas si dur que ça. Je spoil, réponse non. mais en fait, voilà.
Ça part un côté grisant, cette part d'inconnu aussi, de ne pas savoir justement, c'est pas ça qui porte.
Si, si, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y avait ce côté à nos âges avancés. c'est rare qu'on se lance dans un truc totalement inconnu. On se dise, je ne vais pas du tout savoir ce que je vais vivre. Là, il y a une petite part grisante. Ouais.
Est-ce que tu as pu ressentir la peur de décevoir ou de te décevoir avant d'y aller ou c'était pas
Non,
tout
parce
sujet...
que je ne mettais pas d'enjeu d'enjeu là-dessus. Encore une fois, je suis... Bah, enfin, non et oui, parce que non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça prenait, qu'il y a plein de gens qui me suivaient dans mon entourage au sens large. Mon équipe à Canal m'a dit ah, pendant tu fais parce que je faisais pas l'émission, je me suis fait remplacer. Ils ont hâte de suivre toute la journée. Ma femme, mes enfants, tous qui m'ont dit on va faire l'application, vas-tu ? Putain, au moment, je me suis dit oh, tous ces gens qui me suivent, si je me rate et que j'abandonne au 20e, c'est la honte. Donc, oui, ça m'a quand même un peu poussé pendant la course. J'ai quand même beaucoup pensé aux gens qui avait les yeux rivés sur un petit point qu'avancer sur une application, ouais, quand même.
Ça y est, Hervé, tu t'en es pas rendu compte, mais on est aux États-Unis. combien de temps avant t'es arrivé sur place ? C'était vraiment en flux très tendu ?
Ouais, un petit peu. Je suis arrivé le jeudi pour un marathon le dimanche.
Tu sens tout de suite que la ville vibre autour de cet événement ? T'es prêt par ça ?
Oui, mais en même temps, New York, c'est tellement immense, tellement il y a tellement de choses que même si c'est un événement important que tu retrouves dans la ville, il y a aussi plein d'endroits où c'est pas le cas. Donc, tu peux assez facilement t'extraire de ça.
C'est une ville que tu connaissais bien ?
Oui, enfin bien, j'y suis allé quand même 4-5 fois dans ma vie, donc c'était pas une découverte. Il n'y avait pas en plus le côté, le choc que tu prends quand tu découvres cette ville.
Comment s'est passé la nuit précédente ? Est-ce que tu as eu un sommeil agité ? Une nuit très courte, ça a tergiversé un petit peu ?
Nuit très courte parce que départ à 5h15 du matin. Heureusement, bonne surprise, découverte le jour J, la veille donc, que les États-Unis changent d'heure ce jour-là.
Nickel.
Une semaine après la France. Et donc, on va gagner une heure de sommeil.
Bonne surprise.
Donc ça, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais, un peu comme toujours, quand tu te lèves très tôt sur un événement, tu as un peu peur de ne pas te réveiller, etc. Je m'attendais à passer une mauvaise nuit. Non, j'ai passé une nuit courte, mais bonne. Couché assez tôt. Je ne te dis pas que je me suis endormi facilement, mais j'ai dormi 4-5 heures, 5-6 heures, ce qui me suffit pour être en forme.
Ça a été une petite expédition ensuite là pour rallier le sas de départ.
Ouais, ah oui, bah c'est bon, il est quand même tôt, ça pique un peu. On marche dans la rue avec pour rejoindre l'endroit de la navette et avec la peur de la rater. On est dans un bus et là c'est un long transfert qui dure une bonne heure et quart ou une heure et demie pour aller jusqu'à Staten Island. Le jour se lève, c'est assez beau, le jour se lève, tu as une vue sur Manhattan que tu quittes en fait, et tu t'éloignes, et plus tu t'éloignes, plus tu vois Manhattan de loin, 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 et tu te dis, non, le problème c'est que je reviens à pied. Ça m'a fait penser à un truc, la première fois où j'ai fait un saut en parachute, quand l'avion part, tu te dis, l'avion monte, et quand il va se reposer, je ne serai plus dedans. Ce qui est quand même assez rare dans la vie quand tu prends un avion, tu vois. Et ben là, c'est le même truc. Je me suis dit, on quitte la ville, on fait des kilomètres, et je ne reviens pas dans le bus. C'est un peu la même sensation.
On est dans le sas de départ. C'est le moment du pourquoi ou c'est le moment du enfin ? T'as envie d'y aller là ?
Un peu les deux. Pas du pourquoi, du enfin plutôt. Effectivement, on est dans une longue attente. Alors moi, particulièrement longue parce que j'avais un sas de départ très tardif. Petite erreur tactique, j'ai été trop franc, j'ai donné le temps que je pensais que j'allais faire entre 6 et 7 heures. Donc quand tu dis ça, on te fout dans le sas des nuls sur la fin. Et je me suis rendu compte 2 jours avant que c'était une bêtise. Un, parce que déjà, j'étais pas tout à fait seul. J'avais Amandine Petit qui était dans le même sas que moi, mais tous les autres partaient bien avant. Et puis j'ai commencé à faire les calculs. Je me suis dit, attends, mais si tu mets 7 heures, un, il fera nuit. Deux, mon fils était venu, il fait ses études à Montréal, donc il était venu en voisin, il sera déjà reparti parce qu'il a un vol le soir, donc je ne le verrai pas. Et voire même, je vais rater mon avion parce que moi, je repartais dans la foulée. J'avais une grosse contrainte professionnelle dès le lundi. Donc, je me suis dit, je vais devoir courir et aller directement à JFK, à l'aéroport. Donc,
petit coup de pression supplémentaire.
Donc, je me suis dit, merde, c'est pas du tout le bon sas. Donc, on a eu une pression avant, avec Amandine, d'essayer de se greffer dans le sas des membres de notre équipe, de certains en tout cas, et de gratter des sas. Et c'était hyper stressant parce que... On s'est dit que ce serait facile. Non, c'est les Américains. Donc
ça négocie pas.
Ça négocie. Ça négocie, mais c'est hard. Donc on a réussi à s'immiscer après de moult péripéties dans un sas qui nous a fait gagner 1h30. Et c'était vraiment salutaire, il fallait le faire.
L'idée, c'était de faire la course en solitaire ou il y avait Amandine avec qui tu avais peut-être prévu de faire les premiers kilomètres ?
Amandine était la seule qui était dans le même sas que moi. Mais je savais que ses performances étaient meilleures que moi. Donc je savais qu'on ferait les premiers kilomètres ensemble, mais pas plus que les premiers kilomètres. Et je lui ai dit, parce que moi, on m'avait dit surtout, arrête-toi à tous les ravitaillements. Auquel j'ai répondu, vous inquiétez pas, aucun risque avec moi, oui je vais m'arrêter, pas de problème. Et dès le premier ravitaillement, qui doit être au kilomètre 5, je me suis arrêté 10 secondes, mais pour prendre un peu d'eau, et elle, je lui ai dit, trace, vas-y Amandine, parce que tu seras devant moi, et elle est arrivée une demi-heure avant moi, je crois, et donc je ne l'ai plus jamais revue, et après je me suis retrouvé seul.
Tu avais les idées claires, là, justement, sur la partie, sur ton allure, sur la nutrition, sur...
J'avais un plan que je n'ai pas du tout pu tenir, j'avais un plan qui était sur les conseils d'une de mes coaches, elle m'a dit, il faut que tu fractionnes, elle m'a dit, le marathon commence au 30e, ce que tout le monde dit, et si tu te ménages pas un petit peu avant, tu vas pas tenir. Donc elle m'avait dit, fais 7 km et tous les 7 km tu t'octroies une minute de marche. Comme ça, tu as un objectif. C'est vrai que 7 km c'est pas non plus énorme quand on est un peu entraîné. Donc tu as un petit objectif de récompense, d'apaisement, pas trop long non plus, une minute de marche, mais c'est toujours ça à prendre, et tous les 7 km. Donc je suis parti avec cette idée, sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que ma montre un peu tombe en rade, enfin assez vite, j'ai vu qu'elle prenait pas du tout les bonnes distances, puisque je suis arrivé au premier miles, donc 1,5 km ou 1,6 km, elle annonçait 700 mètres. Donc je me suis dit, c'est quoi ce problème? Je pense qu'il y avait trop de montres en fait connectées. Donc les 3 premiers ou 4 premiers kilomètres, elle m'a envoyé des informations qui étaient fausses. Donc j'ai voulu la trifouiller et boum, je l'ai remise à zéro. Donc plus aucun.
Plus de repères.
Plus de repères de temps ni de kilomètres. Mauvaise nouvelle aussi, c'est que les kilomètres ne sont pas indiqués sur la course. Enfin, ils sont indiqués tous les 5 ou 10 kilomètres. Et l'air de rien, c'est pas un détail, parce que un panneau de kilométrage, c'est une petite récompense. Un panneau de miles, la récompense, elle est beaucoup plus rare. Hein. Il y a un peu qu'il y ait 26 miles et non plus 42 kilomètres. Donc j'étais dans un néant spatio-temporel qui m'a fait complètement abandonner ma stratégie, en fait.
Comment s'est passé là le tout départ, le passage du fameux pont là, de départ vers Azzano? Est-ce que c'est des souvenirs particulièrement forts, l'ambiance?
Ouais, le tout premier, fatalement, t'es frais, t'es content, tu te rends pas compte de ce qui t'attend. Tu sais que tu ne t'en rends pas compte, mais tant mieux, voilà. J'étais avec Amandine Petit, tranquille, on discutait, on se marrait, on regardait autour de nous. En fait, c'est comme un départ.
T'es porté. Parfois, on a tendance à partir un peu vite, justement,
oui,
et à
alors,
s'emballer.
Voilà, je faisais en sorte de ne pas être très prudent là-dessus. Pas sûr que je l'ai tenu d'ailleurs, peut-être que j'étais un tout petit peu au-dessus, mais globalement j'étais bien. Globalement j'étais bien. Le premier objectif que j'avais, et je pense que pas mal de gens devaient être comme moi, pour pas se projeter sur 42 bornes, c'est l'arrivée sur Manhattan. Tu te dis Manhattan, en gros, c'est au 27e ou 26e. Quand j'arriverai à Manhattan, j'aurai fait tout le chemin là du bus qui t'a fait peur le matin. Tu seras revenu un peu à la maison.
Ça sent l'écurie ou presque,
Voilà,
ouais.
exactement. Ça ira. Donc, c'est ça, c'est l'objectif. Et je m'attendais à ce que la traversée de Brooklyn soit parce que sur le quand tu regardes la carte, c'est une immense ligne droite de 15 bornes quasiment, hein. Donc tu te dis ça va être l'enfer. Et finalement c'est pas l'enfer, c'est plutôt une bonne surprise parce que l'avenue là, je crois que c'est la 4e avenue de Brooklyn, elle est assez sympa en fait. Je m'attendais à une sorte de truc dans le vent, un faux plat, enfin voilà. Et surtout l'ambiance dont on m'avait parlé est incroyable quoi. Voilà, c'est non-stop et donc beaucoup de distractions autour de toi. J'avais prévu, j'avais des écouteurs pour écouter soit de la musique, soit des podcasts. Et en fait, j'ai pas pu. J'en ai pas eu besoin et j'ai pas pu. De toute façon, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé, mais t'entends rien. Et honnêtement, on a beau te le dire, c'est 42 km. Sur les 42 km, tu en as 39, c'est le Tour de France, quoi. C'est le Tour de France avec des gens qui hurlent autour de toi et beaucoup de lectures. Des panneaux, c'est un peu la culture anglo-saxonne, des panneaux avec des messages, ça te fait de la lecture, tu vois, avec des vannes, alors certaines pas très drôles, mais d'autres assez drôles. Donc tous les 10 mètres, t'as un truc à lire qui te fait marrer.
T'as eu le champignon pour accélérer, là, le champignon de
Oui,
Mario? Ah,
alors ça, j'y suis jamais allé parce que je me suis dit, si tu y vas, tu vas dépenser de l'énergie, si tu fais le Mario maintenant, tu vas le regretter plus tard parce que il y a un moment où
Ça se
tu
paye.
t'aurais dit pourquoi j'ai fait 20 mètres pour aller appuyer sur ce putain de champignon qui ne sert absolument à rien. Donc je me suis gardé de le faire. Mais donc j'ai été quand même assez distrait par l'ambiance. Et cette traversée de Brooklyn, qui est quand même assez longue, c'est un souvenir assez plaisant quand même. En plus parce que j'étais encore frais.
Tu passes ensuite par le Queens là, avant d'approcher de Manhattan. Il y a donc le mur dont on a parlé tout à l'heure qui en théorie est au 30e. Et il avait rendez-vous un petit peu plus tôt là cette fois, c'est
Ouais,
ça?
je sais pas qui
Le scientifique
le gars
qui a
s'est
décrété ça.
trompé, il a mis le mur beaucoup plus tôt que pour moi en tout cas. En fait, déjà il y a le premier pont qui est donc le deuxième pont puisqu'on a eu le premier au départ là. J'ai demandé à une nana à côté de moi est-ce que c'est le pont qui nous mène à Manhattan? La fille n'a pas su me répondre, mais je sais pas et tout. J'ai un peu l'espoir, j'avais l'espoir que ce soit ça. En fait, je me suis réfléchi, mais non, c'est pourtant, j'avais étudié le parcours, mais là, je commençais à être un peu moins lucide. Je me suis dit, non, mais je crois pas. Et effectivement, j'ai vu que c'était le pont qui nous menait au Queen. Le Queen, c'est le passage au Queen, c'est assez court quand même. Donc, voilà, là, tu commences à te dire vivement qu'on arrive sur Manhattan. Et donc, voilà, ce passage sur le Queens, c'est marrant parce que les gens disent Welcome in the Queens et tout. Enfin, les gars, t'accueillent dans leur borough. T'es quand même content de laisser Brooklyn derrière toi parce que c'est quand même le parcours le plus long de ton chemin. Et tu te retrouves sur ce pont immense qui mène à Manhattan. Et là, c'est là que j'ai commencé à marcher pour la première fois parce que le pont montait quand même. C'était vraiment un faux plat assez important. Il y avait beaucoup de densité, beaucoup de monde. Et troisième raison, c'est que je savais que mon fils, que j'avais déjà vu une première fois au 12e kilomètre, m'attendait à l'arrivée sur Manhattan. Et je me suis dit, si je me tape ce pont, je vais être mort. Et si je peux éviter d'arriver en marchant sous le regard
Un
des
peu
gens
d'orgueil.
d'Orange et des supporters et de mon fils, donc je vais marcher tout de suite, comme ça je ferai le mec fringant à la sortie du pont. Donc j'ai marché sur le pont, j'ai repris ensuite. Arrivé sur Manhattan et je comptais beaucoup, donc je savais que. Alors, déjà sur le pont, il y a la mi-parcours, quoi, le semi-marathon. Et donc là, tu te dis, merde, je m'attendais à plus. Non, c'est le 25e kilomètre, donc c'est plus que le semi. 25e kilomètre, j'avoue que je m'attendais à plus. J'espérais voir le panneau 30, et là, comme les kilomètres sont assez peu indiqués, enfin le kilomètre,
Petit coup au
25,
moral, ouais.
je me dis, merde, 25 seulement. Et là, je sais que surtout, j'arrive au stade où. Tout ce que je vais faire, c'est je ne l'ai jamais fait, puisque j'ai couru que 25 dans ma vie, au max. Entrer sur Manhattan, tu te dis je vais être porté par la foule. Oui, mais ça ne dure pas longtemps. Tu rentres sur la première avenue. Certes, tu es content d'être à Manhattan, Mais tu déchantes très vite parce que tu te retrouves. Donc, je n'ai pas vu ni mon fils ni les gars d'Orange. Il y a tellement de foule que je ne les ai pas vus. Et là, tu es, tu as une perspective. Tu as la première avenue devant toi. Tu as un faux plat montant. Donc, tu vois au bout. Et au bout, c'est comme si tu regardais de la lune, en fait.
C'est quasiment 7 bornes, je crois.
7 bornes, tu vois. Tu te dis, non, c'est pas possible. Je ne vais pas devoir aller au fond là-bas. Et quand je serai là-bas au fond, il me restera 15 bornes. Donc là, honnêtement, la première avenue, je ne peux plus la voir en peinture.
Tu ne te dis toujours pas que tu vas mettre le clignotant et t'arrêter. Ce n'est toujours pas une option.
Non, non. C'est un peu... À aucun moment, je me dis que je vais devoir arrêter. Par contre, tu as un peu peur que le physique t'y contraigne parce que à partir du... Donc là, on rentre sur Manhattan, c'est le 26e kilomètre. Ça commence à tomber comme des mouches autour de toi. Il y a plein de gens qui s'arrêtent, qui
se font des crampes,
qui vomissent, sont sur les civières. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Bon, là, on rentre dans le dur quand même.
J'avais un copain qui avait reçu dans le podcast qui disait, ça sent la défaite. Et c'est un peu l'image aussi.
Ouais, genre,
par vite, ça sent la défaite.
Ça sent la bataille, le terrain de la bataille napoléonienne avec les gars qui commencent à partir sur les brancards. Tu vois. Et donc, en fait, tu sens aussi que que ça peut tomber dessus, donc tu lèves de moins en moins les jambes. Au début, je pensais pouvoir faire des levées de genoux, tu vois, pour... Et d'ailleurs, Dorian m'avait dit, non, fais pas ça, parce qu'au bout d'un moment, tu vas partir en crampe si tu fais ça. Et donc, effectivement, donc mon genou a commencé à me faire souffrir là dans cette première avenue. J'ai senti que mes mollets étaient quand même, pouvaient partir en crampe, que à l'aine, ça pouvait partir en crampe. En fait, tu avances doucement. Mais en tout cas, mentalement, je ne me suis pas dit, j'en peux plus, je vais arrêter. Jamais. Jamais. Mais par contre, je me disais, il ne faut pas que ça me tombe dessus. Si je pars en crampe, comment je vais faire, quoi ?
Il y a de la place quand même pour des moments de plaisir, même très épisodiques et très furtifs, où ça n'est que souffrance ?
Non.
Est-ce que tu arrives à t'émerveiller quand même de certains instants et
tu
picores ?
Oui, c'est furtif. Voilà, en fait, tu as toujours ce spectacle de la rue. Tu as les concerts improvisés, les gens, les enfants, alors sans faire d'effort d'aller taper sur le truc pour
champignons magiques,
voilà, mais tu as quand même des petits enfants qui te tendent la main et tu leur tapes dans les mains et tu sens que ça les rend heureux, tu sais pas pourquoi, ils doivent te prendre pour un sportif de haut niveau, un héros, je sais pas, avec leurs yeux d'enfant, tu vois. Oui, c'est un spectacle, en fait, voilà. C'est pour ça que je te dis, malgré tout, la magie de New York, elle opère, c'est-à-dire que je me vois pas courir, être au 30e dans une campagne, quoi. Dans les vignes même, je sais qu'il y a des marathons dans les vignes. C'est horrible. Enfin, moi, je pourrais pas. T'as l'impression que t'avances pas. Les vignes, c'est toujours.
Et
des
dégustations de vin souvent ravito,
ouais,
ça peut peut-être compenser.
Certes, mais ça suffirait pas à me motiver. Non, là, quand même, t'as ce spectacle de la rue qui te porte. Et puis, l'air de rien aussi. Même si ça peut avoir un côté décourageant, la numérotation des rues à la new-yorkaise, les blocs, qui fait que ça te donne, si tu vois avenue Jean-Baptiste Clément,
pas trop d'indices.
T'as pas d'indices là, tu vois. Alors. Ça peut avoir un côté décourageant aussi, quand même. Hein. 48e rue, 49e rue, 50e rue. Et en fait, on arrive dans le Bronx à la 130e. Un truc comme ça. Donc, c'est quand même long. Mais ça, voilà, ça te donne des objectifs. Et d'ailleurs, puisque c'est là que j'ai commencé à alterner, je me suis dit, comme ma montre m'avait rendu l'âme, enfin, j'avais pas trop de repères où j'en étais, je me suis dit, tu cours 10 blocs et tu vas marcher 2 blocs. Après, je me suis dit, bon, c'est trop, tu vas courir 7 blocs et tu vas marcher 3 blocs. Après, je me suis dit, tu vas courir 5 blocs et tu vas marcher 2 blocs. Après, je me suis dit, tu vas courir 2 blocs et tu vas marcher 2 blocs. Bon, et plus ça allait, plus c'était dur. Mais voilà, j'ai fonctionné comme ça, en me donnant des objectifs. Je me suis dit, je cours jusqu'au prochain feu rouge et ensuite, je marcherai un peu. Enfin, voilà, là, j'étais quand même dans le dur, quoi.
C'était pas dans les villes, mais la 5e avenue, elle était un peu du même tonneau.
Exactement, tu rentres dans le Bronx, c'est assez court. Le Bronx, c'est un peu mythique quand même. Tu te dis, je suis dans le Bronx, t'as encore l'image, même si ça a changé justement des années 80, où si tu rentrais dans le Bronx, tu n'en sortais pas en fait, t'en sortais en morceaux. Donc là, tu dis, waouh, c'est ça le Bronx, machin. Bon, t'es dans le sud du Bronx, c'est un peu pipolisé, on va dire. Enfin, c'est devenu.
C'est gentrifié.
Voilà, gentrifié, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, tu rentres, donc tu arrives à Harlem et là, tu refais la 5e avenue en sens inverse. Ce qui est mieux, c'est que tu n'as pas la perspective comme la première avenue, parce que tu as des parcs qui cassent un peu la ligne droite. Et tu arrives dans un espèce de parc, là, la sortie d'Harlem, où quand j'avais regardé la carte, je me suis dit, wow, si tu arrives là, tu pourras te considérer comme presque arrivé. Et donc là, je suis quand même content d'être là. Mais bon, c'est, tu vois aussi le nouveau gratte-ciel qu'ils ont fait là, et dont je savais que l'arrivée était au pied de ce gratte-ciel, tu la vois quand même. Et ça te paraît très loin. New York, c'est une ville particulière parce que mec, quand tu y vas en touriste, tu marches énormément sans t'en rendre compte. Parce que ce système de blocs, tu regardes, tu dis, oh, on est à 5 blocs, c'est pas grave. On est 50e rue, on va à la 35. Bon, bah, c'est pas grave. Mais tu fais assez facilement beaucoup de kilomètres. Et quand tu Manhattan, moi, ça m'est arrivé de descendre de Central Park au sud, 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 à la pointe sud de Manhattan à pied, ce qui fait 18 ou 19 kilomètres. En fait, sans s'en rendre compte. Parce que, à la fois, le spectacle permanent, puis mais quand tu vois ce que tu as fait, l'air d'un, tu te rends compte que c'est énorme. Et là, c'est pareil, tu vois, tu te dis, waouh, le gratte-ciel là, qui est près de l'arrivée, il est quand même très loin. Donc voilà, bon, mais quand même, tu sens que ça sent l'écurie, quoi. Voilà, tu te dis, waouh. Et tu arrives à Central Park, et là, tu te dis, j'en ai tellement rêvé d'arriver à Central Park, qui est quand même le sas d'arrivée, finalement, que tu as c'est fini. Mais c'est pas fini, parce qu'il te reste 7 ou 8 kilomètres, je crois, de mémoire. Et donc, c'est quand même, quand on a fait 35, c'est pas rien. Et puis, c'est aussi, voilà, effectivement, des collines, des montées, des descentes. Voilà, donc t'es à la fois grisé par ce côté, la foule qui est là, machin, le côté, ça sent la fin. Mais c'est pas tout à fait la fin. En tout cas, c'est une fin qui dure.
Les tout derniers mètres, là, tu te sens habité par... Beaucoup de satisfaction, on était un peu euphorique.
Euphorique, ou... non, parce que tu n'as pas l'énergie pour être euphorique. Donc Dorian m'a rejoint, il m'attendait. Bon, lui, il n'a pas fait le marathon, mais il l'a fait 4 fois, je pense.
Il faisait les suivait un peu tous les coureurs du
voilà.
Team.
Mmh. J'étais le dernier hein, de la team, donc il m'a rejoint, il m'a dit... il a cru me donner le moral, il m'a tué en fait, parce que pour moi dans ma tête, j'arrivais là, il me pensait qu'il restait 5 minutes, il me dit allez, t'inquiète pas, c'est fini, dans 30 minutes t'es arrivé, je fais what 30 minutes non, pour moi c'était à 5, donc il m'a tué. Je lui ai dit que je pouvais pas courir jusqu'à la fin, qu'il fallait que j'alterne, il m'a dit ok, pas de problème, mais il m'a poussé à courir plus que je ne l'aurais fait seul, et finalement, sans le savoir, parce que j'avais pas de repère de temps, il m'a permis d'être sous les 6 heures. C'est ça, hein, sous les.
Ouais, 5h58
avec 23h. Donc en fait, sans le savoir, il m'a poussé un peu. En fait, honnêtement, euphorique, je dirais pas ça.
Soulagement, soulagé. Ouais,
satisfait, soulagé. Enfin, tu te dis, tu l'as tellement rêvé cette ligne d'arrivée. J'étais allé la visiter 3 jours avant parce que tu peux. Allez, on a fait une séance d'entraînement dans Central Park et donc tu vois ce finish là et tu te dis, waouh, quand je passerai là, putain, je serai trop content. Donc tu sais que la récompense est proche et voilà. Et quand t'es arrivé, c'est trop bon que ce soit fini. Or, ce n'est pas fini. Puisque il faut ensuite, tu as tout le sas, ils te font retraverser Central Park. Et ensuite, il faut retourner. Moi, je suis retourné à l'hôtel. Il se trouve que j'ai fait 15 km à pied d'ailleurs. 15 bornes pour rentrer à l'hôtel. Ce qui finalement a constitué un décrassage qui m'a été utile. Mais bon, sur le moment, quand même, tu trouves le temps long. Mais ouais, c'est pas grave. Enfin, dans ta tête, tu as quand même fini. Quoi.
C'est quoi la première chose dont tu as eu envie une fois la ligne franchie? Un lit, une douche,
un massage.
Une glace?
Un massage. Ouais, un massage sportif. l'équipe avait bien fait les choses. Je savais que si je rentrais à temps, ils m'attendaient. Et c'est ce que j'ai eu, juste parce qu'il fallait que je rentre. Et j'ai mis quand même une heure et demie, je crois, pour rentrer à pied. Et surtout, je me projetais le soir dans l'avion au moment où je serai assis et que ce sera terminé, que je pourrais enfin...
Ça n'a pas dû être drôle, les jambes dans l'avion, là, les jambes pliées.
Écoute, plutôt bonne surprise.
C'est lundi au bureau, alors les courbatures, c'est ça
non.
Même pas.
Mais non.
Ah, mais t'es fait pour ça.
J'ai surpris tout le monde, et moi-même d'ailleurs. Quand je suis arrivé à l'aéroport de New York, je suis sorti du taxi, là j'ai marché. Je pense que les gens me voyant savaient que j'avais fait le marathon. et une fois dans l'avion, je me suis dit le réveil le matin va être horrible. Pas tant que ça, franchement bien. Je suis allé bosser directement, je suis parti de l'aéroport, j'avais un tournage, j'étais bien. Ils m'ont dit, non, c'est le surlendemain, donc demain tu vas être... Et le surlendemain, j'étais bien. Enfin, j'étais comme quand j'avais fait 15 bornes, quoi. J'ai eu aucune courbature. Et c'est pour ça que je disais, en réfléchissant, en discutant un petit peu avec des spécialistes, ils m'ont dit certainement que c'est la marche de 15 bornes que j'ai fait dans la foulée des 42 qui a fait office de décrassage et qui m'a valu de ne pas avoir de plus que ça de courbature.
Vous avez fait la fierté donc de Dodo, puisque vous avez fait carton plein, toute la team Orange Running. Là, ouais. Tout le monde est revenu avec sa médaille de finisher. Il y a eu aussi des situations un peu compliquées. Je crois que Marine, l'orphelin, est très mal au genou. Ça a été assez compliqué pour elle.
Oui, chacun a eu des problèmes. Certains, ça a été des problèmes intestinaux. Marine a souffert aussi. Claude-Henri Durier, donc d'Orange aussi. Éric Abidal, pourtant qui est un sportif de haut niveau et qui est affûté... a explosé dans la deuxième moitié. Chacun a découvert, pour ceux qui faisaient ça pour la première fois, diverses difficultés. Mais effectivement, du coup, rétrospectivement, j'aurais pas aimé être le cancre de l'équipe. Enfin, j'ai été le cancre en matière de temps, mais au moins, j'ai pas fait honte.
Vous avez tous fini, c'est ça, ouais. L'essentiel. C'était ton objectif, tu l'as atteint.
Exactement.
Est-ce que ce marathon de New York, il a été à la hauteur de ce que tu imaginais?
Oui. Voire plus. En termes d'ambiance, plus. On avait beaucoup parlé, mais franchement, en entendre parler, le vivre, c'est différent. Je m'attendais pas à autant. Je me suis dit que dans les rues de Manhattan, tout ça, il y aurait du monde, mais c'est tout le temps. Donc, grosse ambiance, et je pensais pas pouvoir courir près de 6 heures sans écouter de musique, sans rien, et sans en ressentir le besoin, tellement il y avait de l'ambiance et du spectacle. Et en matière de souffrance, comme je te le disais, à un moment donné, j'avais l'espoir d'avoir une bonne surprise, de me dire « Ah bah finalement, c'est pas si dur que ça ». Et non, en fait. Donc il a atteint aussi ce que j'attendais finalement. C'est quand même très dur, c'est quand même très long.
Est-ce que tu changerais quelque chose sur ton marathon ? Dans la phase amont, dans la course en elle-même ?
Je changerais déjà mon pronostic pour avoir un meilleur sas et ne pas stresser avant de devoir me m'immiscer dans un sas qui n'est pas le mien, etc. Voilà. Et ensuite, oui, j'ai trop bu, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'après, on m'a alerté là-dessus. On m'a dit, il faut que tu t'hydrates. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup bu. Et du coup, j'ai dit, mais comment ça se passe si tu as envie d'aller aux toilettes pendant que tu cours? On me dit, non, t'inquiète pas, tu vas transpirer. En fait, j'ai fait des arrêts pipi constamment qui m'ont beaucoup retardé. Donc, je boirais moins si je le refaisais.
Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi?
Que j'avais pas un mental aussi merdique que ce que je disais, parce que des gens m'ont dit, qui me connaissent bien, m'ont dit non, mais tu te rends pas compte, en fait, t'as un mental dingue, sous un aspect au départ qui peut sembler je tourne tout en dérision, je suis pas un compétiteur dingue, etc., j'ai pas envie de me faire mal, enfin tout ça. Malgré tout, quand je me fixe un objectif, je le fais. Voilà.
Si tu devais retenir une image de ce marathon de New York, la première qui te vient là quand je te dis ça.
À un kilomètre de l'arrivée, mon fils dans Central Park m'attend et je vais le voir et on s'embrasse. Voilà, on est dans les bras l'un de l'autre et je repars. Il ne reste plus qu'un kilomètre et je ne vais pas le revoir derrière parce qu'il est reparti. Il a repris son avion dans la foulée. Donc le temps que je rentre à l'hôtel, il était parti. Voilà, celui-ci. Et puis, en termes de parcours, bizarrement, mais j'en ai parlé avec d'autres qui ont eu un peu le même souvenir que moi. Enfin, la partie qu'ils ont préférée, c'est dans Williamsburg, là, après Williamsburg, dans Brooklyn. Donc, un endroit qui, lorsque tu regardes la carte, te paraît assez banal. Mais je trouve que c'était là qu'il y avait l'ambiance la plus incroyable. Et le cadre, l'avenue était très sympa. Elle était bordée d'arbres. Enfin, c'était un quartier que je ne connaissais pas. Et j'ai adoré ce passage. Je m'attendais à ce que le Manhattan me porte plus que ça. C'est plutôt dans Brooklyn, là, cet endroit que j'ai adoré.
Merci beaucoup, Hervé, d'avoir partagé avec nous ton marathon de New York épique. La bonne nouvelle, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est que tu rends pile en 2024 avec le marathon pour tous, le marathon des JO.
Oui.
Normalement. Est-ce que c'est comme en parachute, là, c'est plus dur la deuxième fois, là, quand on sait qu'on a déjà expérimenté la première fois, ou est-ce que tu vas t'en servir? C'est une expérience qui va finalement t'aiguiller, te faciliter la tâche?
J'aurais tendance à... Enfin, je pense que un peu les deux, fatalement. Il y aura moins cette part d'inconnu, mais je crois quand même que c'est plus dur de savoir. Tu perds ce côté un peu découverte. Et puis le parcours du marathon pour tous et du marathon olympique, puisque c'est le même, est particulièrement difficile avec un gros dénivelé. Ça fait un peu peur. Mais bon, voilà... Mais peut-être moins d'enjeux, entre guillemets, de se dire je sais que je l'ai fait, donc que je suis capable, a priori, de le refaire.
À plus long terme, est-ce qu'il y a un défi sportif qui te fait envie, alors qui pourrait être de cette nature-là, mais peut-être en famille, avec les tiens, ou est-ce qu'il y a un rêve absolu que tu aimerais réaliser, une expédition, un projet, enfin...
Non, pas trop de choses de cet ordre. J'ai déjà fait un équidène en famille, donc peut-être refaire des choses comme ça, où le côté un peu équipe me plaît bien. Mais pas de. On va pas, la famille Matou va pas partir au pôle Nord en raquette ou un truc comme ça. Non, ouais.
En autonomie,
non.
En autosuffisance.
Non, pas trop, non, pas trop.
Hervé, c'est la dernière question de ce podcast. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous, ta propre création ou une devise existante?
Une devise, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui me porte, que j'essaie de m'appliquer, c'est une phrase banale qu'on a tous déjà entendue, mais à laquelle j'adhère, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Pour moi, je trouve que le monde est rempli de trop de gens qui se prennent au sérieux dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont.
Dans ce qu'ils pensent être.
Dans ce qu'ils pensent être, ouais, souvent d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il faut, quand il y a des choses, parfois, il faut rassembler son énergie, être sérieux, etc. Mais il faut jamais se prendre au sérieux, quoi. Voilà, on est peu de choses. Rien n'est vraiment jamais très grave. Voilà, dans le monde quotidien, et voilà, il faut rester cool, y compris et dans ce qu'on réussit. Quand on réussit une performance sportive, il faut savoir relativiser. Ça m'arrive de jouer au foot avec des gens, t'as l'impression qu'on joue la Coupe du Monde, alors que moi, souvent d'ailleurs, les journalistes de sport qui fréquentent les sportifs de niveau et le sport de haut niveau, tu les vois jouer au foot derrière, ils ont l'impression d'être. Et moi, ça me fait l'effet inverse. Je me dis, non, mais ce qu'on fait nous par rapport à eux, c'est même pas du foot. Enfin, faut arrêter de se prendre la tête, quoi. Donc, il y a ça. Et puis, professionnellement, les gens se prennent trop au sérieux, quoi. Voilà, c'est un peu ça que je porterai en étendard dans mes valeurs.
Et que tu as très bien porté pour partager avec nous cette course. Merci beaucoup de nous avoir vu dans tes baskets, ton marathon de New York.
Merci,
une course
merci.
Sur laquelle tu fais preuve quand même d'une grande détermination, on peut le dire. Bravo à toi pour cette performance. Et puis ce statut de marathonien, on ne peut pas te l'enlever, ça y est. Tu es marathonien, tu l'as fait. N'en déplaise à ta famille qui n'y croyait pas. Tu as une médaille que tu peux ressortir à tout moment et porter fièrement autour du cou.
Même si c'est... Alors pour le coup, je ne suis pas non plus... ça, c'est un peu en écho avec ce que je viens de dire. Je vais pas faire un cadre. Je vais pas faire un cadre avec ma médaille. Je sais même pas où elle est d'ailleurs, je t'avoue. voilà, je ne m'enorgueillais pas de ça. Ce qui m'agace un peu parfois, c'est que quand tu as fait une performance très modeste, ce qui est mon cas, un temps pas terrible, il y a beaucoup de gens qui disent oh, c'est nul, machin. Et tu as envie de dire mais écoute, fais-le. Puis, alors, déjà, il y a des gens qui l'ont fait, alors, effectivement, qui l'ont fait en 3h30. Et je trouve qu'ils sont pas trop dans l'esprit du running de mépriser les gens qui font moins. Il y a ça. Et puis il y a ceux dont tu sais qu'ils ne le feront jamais et qui te disent oh, moi, si c'est pour faire ça, ça ne m'intéresserait pas. Et bon, ben voilà, ben, tu l'as fait en bagnole en fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Mais donc, et d'ailleurs, je trouve que quand les gens te disent ah, t'as fait le marathon, c'est quoi ton temps? C'est quoi ton temps? Cette espèce d'obsession du temps m'agace un peu. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire, le champion, tu m'as dit, il a mis 2 heures. Donc, de toute façon, oui, effectivement, quand tu es un peu dans les choses du running et tout, ça t'intéresse de voir la performance, mais pourquoi toujours demander un temps pour relativiser la performance ou au contraire la valoriser? On s'en fout, en fait. On court tous pour autre chose que le temps, parce que, surtout à notre niveau et à mon niveau, le temps, c'est très secondaire.
C'est la beauté de la course à pied, hein. C'est dans le même environnement, le même parcours, la même médaille, il y a juste une différence, c'est le chrono qui est au-dessus et fondamentalement tout le monde s'en fout. Il y a cette notion d'échelle que moi aussi je prends plaisir à défendre ici en laissant le micro à des coureurs amateurs, anonymes, des grands champions, mais finalement ils sont réunis par une passion et puis chacun essaie de se dépasser à la hauteur de ce qu'il peut et c'est ça qui est finalement important, on y arrive, on n'y arrive pas, on essaye. Merci beaucoup Hervé, puis rendez-vous sur la ligne de départ, moi je serai aussi au Marathon pour tous, donc rendez-vous le 11 août je crois, c'est ça à peu près.
Exactement.
En pleine forme.
Exactement.
Ça veut dire courir un peu l'été, ça par contre, tu vas pas y couper.
C'est
priori,
ça le problème. Ouais. C'est ça le problème.
Bon, barbecue rosé, on mettra ça en pause quelques semaines.
Ouais, c'est ça. On sera peut-être dans le SAS, mais c'est pas sûr. Hein.
J'espère t'y revoir en tout cas. Merci pour ton temps, Hervé.
Merci.
C'était un plaisir.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.